commence.
Ouais, on va démarrer. Donc Karim Berouka va nous rejoindre en cours de route. Enfin, il devrait vraiment arriver d'une seconde à l'autre. Mais on va donc démarrer cette table ronde sur IA, intelligence artificielle répliquant créature virtuelle. La science-fiction est-elle encore humaine? Aujourd'hui, c'est thème... Ah.
Salut, bonjour.
Voici Karim. Donc ce sont des thèmes du genre cyberpunk qui aujourd'hui ont pris une tournure bien différente du point de vue de l'imagerie. L'invasion du corps, de l'esprit par la machine ne se fait-il pas de manière brutale mais bien par touches successives? Du pacemaker à Internet, en attendant les nanorobots, l'être humain se lance avec bon gré vers sa transformation. Est-ce un perfectionnement comme le prouve le mouvement transhumanisme ou bien sa simple disparition? Enfin, quelle place ces thèmes ont-ils aujourd'hui dans la science-fiction? Et pour cela, et pour en parler aujourd'hui, quatre auteurs talentueux sont parmi nous. Étienne Barillet, Sylvie Lenné, Yala Yardal et Karim Berouka. Alors, d'habitude, quand je modère une table ronde, moi j'adore faire ça, c'est que je vais vous laisser vous présenter. Je me prépare un petit... Donc, Étienne Barillet.
Donc, qui n'est pas un auteur.
Qui n'est pas.
Et talentueuse.
Oh, mais talentueuse.
Donc, essayiste. J'ai écrit sur la science-fiction, notamment Philippe K. Dick, et sur le steampunk, et aussi les littératures populaires.
Sylvie Lenné.
Donc, moi, je suis novelliste. Je n'écris que des nouvelles. J'écris des nouvelles où il est quelquefois question de science, mais pas... C'est un prétexte, disons, pour parler d'autre chose, et pour parler d'hommes, mais je ne veux pas déflorer le sujet, d'hommes et de femmes aussi.
Yala Yardal.
Ah, je crois que je suis écrivain, et c'est à peu près tout. Je fais ça bien, hein. Quand je me relis, des fois, je suis impressionné.
Et Karim Berouka.
Voilà, moi, je n'écris pas grand-chose, des petites nouvelles, avec encore comme Sylvie, avec très peu de science-fiction dedans, parce que je ne me retrouve plus tellement. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, c'est tout, voilà, c'est moi. Bonjour.
Allez, on va démarrer par une question. Alors, on va prendre Sylvie, puisque c'est notre représentante féminine. Comment, aujourd'hui, est abordé l'intelligence artificielle, les réplicants, donc cyborg et tout ce qui va autour, et dans la littérature de science-fiction aujourd'hui? Ou comment tu l'abordes, toi?
Il y a plein de manières de les mettre en scène, mais en général, il s'agit de créatures sophistiquées, bien intégrées dans des environnements humains, qui fonctionnent d'une manière assez similaire à celle des êtres humains et qui restent un peu mystérieuses parce qu'on ne sait pas trop comment elles résonnent, on ne sait pas quelles émotions elles éprouvent, donc c'est intriguant. Ça permet de mettre une dimension, enfin quelquefois, d'investigation presque, même s'il n'y a pas d'enquête à mener, ça permet de fonctionner un petit peu sur le registre du polar, à mon avis. C'est intriguant, on ne sait pas comment ça marche à l'intérieur. On ne le sait déjà pas pour les êtres humains, mais pour des créatures qui sont conçues sur des principes différents des nôtres, et qui en même temps ont été conçus pour interagir très bien avec nous, ben on a envie de comprendre comment ça marche à l'intérieur, et puis on ne peut pas y arriver. Enfin bon, c'est réducteur, mais c'est un côté qui m'intéresse, moi, dans les intelligences artificielles.
Je me tourne à gauche.
Ah, moi, c'est extrême gauche, en principe. non, ce qui est intéressant, du coup, ça me rappelle un petit peu d'où viennent toutes ces thématiques. Isaac Asimov, les robots, voilà. Et au départ, la conception de l'auteur de SF, de la créature fabriquée par l'être humain, qui remonte à Mary Shelley, le premier auteur de science-fiction, on va dire de la science-fiction moderne, qui au passage était une femme, au cas où personne ne l'aurait remarqué. On attribue ça en général à Jules Verne, à G. Wells, mais non, c'était une femme. Après, Isaac Asimov a créé le robot avec les lois de la robotique, dont j'espère qu'on a tous entendu parler, parce que je ne me souviens absolument plus de ce qu'elles sont. Il y en avait trois, c'est très simple, c'est superbe.
On devrait y arriver, attends.
La première, c'est « Tu ne parles pas des lois de la robotique
».
De mémoire, la première, c'est ne pas toucher un être humain. Enfin, on ne peut pas faire du mal à un être humain. C'est la toute première. On peut pas se faire, le robot ne doit pas se faire de mal à lui-même. À moins que cela contredise la première loi, et la troisième, c'est...
Il doit obéir à l'être humain, sauf si ça contredit aux deux premières.
Aux deux premières, c'est ça.
Alors on part de ce principe qui est une façon très, comment on dit, anthropomorphique, et surtout, on ne crée pas le robot, la créature, l'intelligence artificielle, c'était un outil. Ça, c'est, on démarre comme ça, et puis petit à petit, on va doter cet outil, et Isaac Asimov l'a fait lui-même, d'une conscience qui va lui permettre, dans un premier temps, de remettre en cause les trois lois de la robotique, avec quelques petites tricheries, et puis petit à petit, on s'en détache totalement. Et on va arriver jusqu'à... Vous m'aidiez sur les noms, je suis désolé, j'ai une mémoire des noms qui est absolument catastrophique. Un auteur qui s'appelle Michel Houellebecq, dont vous avez sûrement entendu parler, qui, à la fin d'un roman... dont j'ai paumé le titre. Les testicules alimentaires. Si franchement c'est de ça que ça parle, non? Enfin, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vient à bout du système en disant l'humanité est en train de se refabriquer elle-même par l'intermédiaire de ce qu'elle s'ajoute. Et donc on a dans toutes les étapes, dans tous les intermédiaires, on a plein d'histoires amusantes, c'est-à-dire qui sont petit à petit... On a créé une créature artificielle, on va se changer nous-mêmes. L'avenir de l'humanité et la transformation qu'on est en train de vivre, c'est la personnalité artificielle, ou plutôt ce qui va constituer l'être artificiel, c'est nous qui le fabriquons. Alors on le voit déjà, il me semble, avec l'évolution de tout ce qui concerne la génétique, la biologie et maintenant les implants. Toutes les aides artificielles qui permettent, par exemple, à des gens qui n'ont plus de jambes, de pouvoir courir le 100 mètres en 11 secondes une. Oui, apparemment, oui, il y a ça. Et puis surtout, là où on fait le plus gros travail en ce moment, c'est sur remplacer les yeux, oui, et remplacer les oreilles. Et on avance, on se transforme nous-mêmes. Donc, pour moi, la question centrale de cette personnalité étrangère qui est la créature artificielle, c'est nous-mêmes, comment on va se modifier. On est en train déjà de travailler aussi sur les implants d'aide mémorielle. Moi, par exemple, j'ai deux fiches USB ici, j'ai un USB 2 qui est un petit peu pas terrible, il y a un USB 3 qui est vraiment pratique, et une cervelle extérieure qui se connecte régulièrement à moi pour me rappeler les noms des gens que j'oublie et des titres.
Tu l'as pas branché là?
Là, si, là je suis branché. Non, mais si je continue à parler, plus personne ne va parler. Donc,
Étienne, on va laisser
mon nombreux public.
Étienne, donc sur ces thèmes-là, en tant qu'essayiste.
Le thème du robot, c'est un thème qui parcourt le. La littérature, le mot robot, c'est le travailleur, donc de la pièce de théâtre des années 20. Donc ça, c'est un thème qui irrigue, qui fascine, qui est plus vieux qu'ancien. Ce qui est intéressant sur Asimov, c'est que quand Asimov commence à concevoir ses lois dans les années 50 et à explorer dans ses textes des variantes, chacune de ses nouvelles ou de ses romans, c'est comment est-ce que je peux faire pour sortir d'un système qui est en apparence théoriquement parfait? À l'époque, les machines, l'intelligence artificielle n'existe pas. Les premiers ordinateurs remplissent largement le bâtiment. Donc maintenant, on est dans la situation où on a des scientifiques qui travaillent sur les intelligences artificielles, qui ont lu Asimov quand ils étaient plus jeunes, et qui sont amenés à se poser la question, est-ce que je mets en application, au niveau théorique, ces lois? Est-ce qu'on en a besoin? Alors là, c'est du travail qui nous amène sur des dizaines d'années dans le futur. Mais il y a tout un dialogue qui a lieu. Je pense au robot qui avait été fait de Philip K. Dick, où des scientifiques, des ingénieurs un peu fous, c'est un pléonasme, avaient fabriqué un robot qui était à l'image de l'auteur américain Philip K. Dick, qui parlait, à qui on pouvait poser des questions, et qui il le promenait comme ça de salon en salon pour montrer un peu ce qu'il faisait. Sauf que les aéroports étant ce qu'ils sont, dans un échange, ils ont perdu quelques valises. Et parmi ces valises, ils ont perdu la tête de Philippe K. Dick, qui à ce jour n'a pas été retournée. Ce qui fait qu'on peut penser qu'au-dessus des États-Unis, peut-être du monde, sa tête robotique tourne encore.
Karim ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Karim.
Question.
Tu passes ton tour.
Ah, on passe le tour.
On a
parlé un petit peu de la genèse ou d'où vient un petit peu la robotique, les cyborgs, l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, est-ce que ça a évolué? Parce que est-ce qu'on en a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore de réinvention du genre?
On parle des robots d'Asimov et puis toute cette histoire du robot des années 50 qui était un peu mythique, qui était un peu quelque chose de nouveau, je suppose, à l'époque, et puis qui promettait beaucoup de choses. Aujourd'hui, le robot, c'est le robot mixeur dans la cuisine, c'est le robot qu'on va construire au Japon pour faire, je sais pas quoi, un parcours sans se planter sur les quilles. Donc ça devient hyper sophistiqué, mais humainement, ça n'a rien d'humain, quoi. C'est une machine. Après, on parlait d'intelligence artificielle. Au niveau de l'intelligence, au niveau du choix, mais au niveau de tout ce qui est sentiment, tout ce qui est humain, on l'a pas en fait, on l'a pas encore trouvé, on l'a dans les histoires, on l'a pas dans la réalité, on y viendra peut-être un jour, quoi, je sais pas, moi je suis pas assez calé scientifiquement pour aller mettre mon nez là-dedans. Ceci dit, ce qui reste des années 50, des images du robot qui devient un peu le remplaçant de l'homme, ça me rappelle une nouvelle d'un auteur qui s'appelait Shekley, Robert, ouais. Si j'ai un problème avec
la Bob,
c'est l'histoire d'un type qui parle de son robot qui s'est barré sur notre planète en l'abandonnant, puis en fait on aperçoit qu'à la fin que c'est le robot, c'est pas le type. Et c'est cette idée d'avoir un robot qui soit la copie, pas seulement mécanique, mais aussi à la fois intellectuelle et puis au niveau mental. Et ça, on l'a jamais, on l'a plus tellement dans la littérature aujourd'hui, parce que...
Il y a une Banks.
Hein?
Banks.
Oh, je sais pas, ça c'est trop récent pour moi. Ça existe encore? Mais est-ce qu'ils sont humains maintenant, est-ce qu'on a du robot? On a encore cette copie idéalisée de l'homme qui devient un robot. En tout cas, on l'a pas concrètement, ça c'est clair qu'on s'en rapproche pas pour l'instant. On a des choses qui sont mécaniques. Voilà. Et même par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que ça reste pas une intelligence, on va dire, informatique? Est-ce qu'un jour, cette intelligence va être capable de réagir comme un être humain? C'est-à-dire qu'on la mettra sur un forum, elle s'engueulera avec tout le monde, par exemple. Ce ne sera pas un truc froid, raisonné.
Alors, j'ai d'abord une question au fond.
Justement, moi, je voulais vous demander comment vous définissez l'intelligence artificielle à la différence de l'intelligence humaine, ou justement que ça...
L'intelligence artificielle.
Justement, comment
moi, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais oui. L'intelligence artificielle, ça va être un ordinateur d'une forme d'intelligence artificielle. Un programme va avoir une certaine autonomie. On va poser une question. Enfin, on va pas lui poser une question. On va taper une requête qui va interpréter, ça peut commencer, je suppose, un truc très simple, une cafetière programmable. Hein, c'est une intelligence artificielle. Si elle se remet en marche automatiquement, un thermostat peut-être. Ça peut être une sorte d'un. C'est le début, quoi. Puis après, je sais pas, quelque chose. Un robot qu'on va envoyer sur Mars automatiquement programmé, qui va être capable de s'arrêter quand il rencontre, je ne sais pas, des martiens, ou pouvoir demander quelque chose. C'est la science-fiction, excusez-moi.
Sylvie
Oui, moi c'est un petit peu mon domaine professionnel, mais justement c'est l'occasion de dire que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est extrêmement vaste, extrêmement divers, que c'est à la fois... une thématique pour des informaticiens, pour des gens qui travaillent sur les capteurs, pour des gens qui travaillent sur les connaissances, pour vraiment un grand nombre de spécialistes scientifiques qui utilisent ou pas ce terme-là, d'ailleurs, parce que c'est plutôt un terme qui vient de la science-fiction que des scientifiques eux-mêmes. Il a été utilisé par les scientifiques à une époque parce qu'il était vendeur. C'était un bon argument pour essayer de faire financer des projets par l'armée, par exemple, ou par d'autres. Ça parlait à des non-spécialistes. Ce côté-là existe toujours. Maintenant, on parle plutôt de sémantique, d'ailleurs. Mais ça revient un peu au même. C'est toujours aussi flou et mystérieux. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais dire. Oui, souvent, intelligence artificielle, c'est le terme qu'on utilise pour parler de ce qu'on ne sait pas encore faire et qu'il semblerait miraculeux de réussir à faire avec des créatures non biologiques manufacturées avec des systèmes artificiels.
Ou biologiques, mais biologiques fabriquées.
Oui, ou biologiques fabriquées, tout à fait, mais pas naturelles en tout cas. Et par exemple, pendant longtemps, on a considéré que le jour où on aurait un système capable de jouer aux échecs et de battre un être humain, ce serait une intelligence artificielle. Et maintenant qu'on en a, et qu'on en a dans nos portables, dans nos téléphones, et que c'est devenu un gadget extrêmement courant, on n'appelle plus ça une intelligence artificielle, parce que ça marche. Donc c'est une espèce d'horizon qui recule tout le temps. En gros, Karim, je suis sûre que tu choques tout le monde en disant que ta cafetière programmable est une IA, justement, parce que comme ça existe, ça n'en est plus. Après, la vraie question, effectivement, on commençait à en parler, c'est celle de l'autonomie ou des motivations. À l'heure actuelle, on fait des choses assez sophistiquées sur le principe de construire des connaissances, d'établir des raisonnements, d'utiliser des mécanismes logiques, et qui permettent d'utiliser des systèmes pour répondre à des questions complexes en brassant des grosses masses de données qui sont mémorisées, qui sont disponibles, qui sont bien décrites comme il faut pour pouvoir communiquer entre elles. Mais la question, c'est toujours l'humain qui la pose, et plus la question est précise et clairement formulée, plus on a des chances d'avoir une réponse intéressante. Mais c'est pas ça qu'on attend d'une IA, justement, c'est qu'elle définisse elle-même son propre projet. Et à la base, je suis pas sûre qu'on arrivera à créer des créatures de ce type un jour, sauf si, comme le rappelait Yal, on y intègre de la biologie. Parce qu'à la base, avoir une envie ou un besoin ou un projet, c'est probablement construit sur une pulsion, sur un besoin qui, s'il n'est pas biologique, on voit pas trop comment il pourrait exister à l'heure actuelle.
On a un truc qui est fascinant sur ces 20 dernières années. On a énormément progressé sur la définition de ce qu'est l'intelligence. On a commencé tout bêtement par cette chose qui nous arrive à tous, c'est avoir conscience de soi. Et à partir du moment où on a conscience de soi, avoir conscience des autres, ou de l'environnement, et d'interagir avec les autres et l'environnement. On a refusé longtemps l'existence d'une intelligence animale. Je crois que jusque dans les années 60, il était très clair pour à peu près tout le monde, biologistes inclus, zoologistes inclus, qu'il n'existait qu'une seule créature intelligente sur la planète, c'était l'être humain. Et puis petit à petit, on a commencé à élargir ça. Alors il y a eu la fascination des dauphins, pour les plus vieux d'entre moi. C'est à peu près dont on se souvient. C'est le premier truc, on a été fascinés. Les dauphins étaient pratiquement aussi intelligents que nous. La preuve, ils utilisaient un langage qui modulait 1500 vocables et qui permettait de communiquer un certain nombre de choses. Alors là, ça a été, il y a une deuxième créature intelligente, ce sont les cétacés, parce qu'on a étendu des dauphins, on est passé à l'ensemble des cétacés. Et puis, petit à petit, on a décliné toutes les espèces animales, alors commençant par la plus proche de l'homme, aujourd'hui, le chien, et puis le chimpanzé, parce que c'est celle qui nous ressemble le plus. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'une forme d'intelligence, de conscience de soi, de l'environnement et des autres qui permet d'interagir, se développe quasiment dans toutes les espèces animales. Donc la bonne question quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence? La réponse, on n'a toujours pas terminé de se poser la question, parce qu'on repousse petit à petit. Et ce sont les linguistes qui vont le plus souvent travailler sur la notion d'intelligence et la notion d'intelligence artificielle, particulièrement dans les années 90 et 2000. C'est eux qui ont fait progresser les informaticiens le plus sur en disant c'est par l'intermédiaire du langage qu'on apprend à une machine, à un être humain ou à un chimpanzé ou un singe, pas un singe, un rat, de développer la faculté de préhension du reste du monde. Oups, je me suis interrompu brutalement, mais c'est mon truc. Hein.
Juste une chose, c'est par rapport à l'intelligence artificielle qu'on va retrouver souvent dans les romans de science-fiction. C'est plus un esprit informatique qui va se retrouver dans le réseau, qui va avoir l'intelligence d'un être humain avec plus de capacité de calcul et qui va pouvoir se retrouver un peu partout. C'est ce qu'on trouve en général, je pense, dans les romans de SF, hein, qu'on appelle intelligence artificielle.
Le fantôme dans la machine.
Voilà. Le fantôme, mais aussi le fantôme, l'esprit conscient quand même qui est présent et qui communique généralement avec... coup que les hommes découvrent tout d'un coup, mon Dieu, il y a quelque chose d'intelligent là.
Oui, je voulais me demander si les thématiques du robot, de créature mécanique, de l'androïde, de la transformation de l'humain apparaissent pas à peu près en même temps que les premiers robots, alors Karel Čapek, c'est des androïdes, en fait, c'est des créatures biologiques, pas des robots mécaniques. Puis dans les années 50, on a tout en même temps. À la fois Limbo, avec l'homme qui se transforme, les robots d'Asimov, les cyborgs, etc. Et tout en même temps, alors ce qui fait la différence maintenant, c'est que je pense que ce qui est abandonné à peu près comme idée, parce qu'on ça, a priori on dit que ça sert à rien, c'est le robot à forme humaine. On se dit qu'effectivement, à quoi ça sert d'avoir un robot à forme humaine, parce que la forme humaine limite les capacités d'intervention partout. Et d'une certaine manière, ce qu'on a à l'inverse, c'est Yann Banks avec ses intelligences artificielles qui sont déshumanisées à l'extrême. Et d'autre part, l'intervention sur les hommes, effectivement, elle est énorme, elle est réelle aussi. On voit bien qu'on est tous, on a tous été opérés plusieurs fois, qu'on a peut-être des petits ressorts.
Je peux contredire Bernard Dardinier, j'aime bien. En fait, je crois qu'il y a une bonne raison pour laquelle on ne fait pas des robots qui ont une forme humaine, c'est qu'on n'arrive pas à faire tenir avec un poids et un volume correspondant à celui d'un être humain tout ce dont on a besoin si on voulait fabriquer une créature qui sait faire une petite partie de ce qu'on sait faire nous. Mais on essaie beaucoup parce qu'il y a une raison très simple. Tout l'environnement qu'on a fabriqué, les escaliers, les portes, les meubles, ont été conçus pour la morphologie de l'être humain. Donc si on arrivait à faire un robot qui a à peu près la même allure et la même corpulence et la même hauteur, il serait parfaitement adapté à tout cet environnement qu'on a créé. Donc je ne crois pas qu'on ait renoncé au projet. C'est vrai que des jambes, ça marche mieux que des roues. Quand on est en face d'un escalier, les roues, c'est un problème.
Est-ce qu'on en fait encore dans la science-fiction des robots à forme humaine aujourd'hui?
Oui. Bah, le Terminator.
Mais on fait aussi des robots à forme humaine dans des environnements virtuels. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions de littérature qui se passent actuellement dans l'univers virtuel. Et là... on a le choix entre toutes les formes possibles, mais la forme humaine marche bien hein, comme support pour des échanges, des interactions, des aventures.
C'est la grosse différence entre créer une créature qui est une existence physique et une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle n'a pas besoin du tout de support physique. C'est la grosse modification d'ailleurs dans l'écriture qui commence un petit peu avec Philip K. Dick. Au début des années 60 et qui se développe totalement à la fin des années 90, entre autres chez Roland C. Wagner, par l'intermédiaire des AIA, et c'est une conscience qui est assez proche de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. Elle naît du cloud, elle se fait toute seule, sans qu'on l'ait réfléchi, sans qu'on ait envie. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le cloud. Ouais, bah c'est juste un nuage, on va pas s'emmerder avec ça.
C'est un serveur de stockage. Hein.
Ouais, c'est un serveur de stockage. Donc c'est maintenant, chaque fois qu'on a... on va plus stocker les informations sur notre propre ordinateur ou notre propre téléphone. Non. J'ai dit on. Ah ! Et on n'est pas nous. Faut que je parle... On continue en anglais, ça va être plus facile. Non. Ce qui est nouveau, ce qu'on voit apparaître à la fin des années 90, c'est cette intelligence qui va finalement naître d'elle-même. Parce que, utilisant toutes les intelligences et toutes les réserves virtuelles qui sont à sa disposition, il y a une conscience qui est très différente de la conscience humaine, mais qui va voilà, qui va prendre son sens, etc. Alors, c'était déjà présent dans Terminator, ce que tu disais tout à l'heure, sauf que dans Terminator, elle est déclenchée et voulue. La nuance chez Rolland et Wagner, c'est que ça se passe comme ça, c'est nu tout seul. Une contradiction.
C'est un retour dans la métaphysique.
Aïe. Non, pas la métaphysique.
Et en parlant de ces imageries, en fait, j'avais une question. Par exemple, on a une imagerie très du cyberpunk des années 80, très noire et très un petit peu sale et à la fois cosmopolite de ces cyborgs, de ces robots, de ces intelligences artificielles qui sont des énormes machines qui contrôlent l'humanité. Et aujourd'hui, finalement, dans le monde, on approche de certaines de ces choses-là. Comment aujourd'hui est cette imagerie dans la science-fiction de ces intelligences artificielles, aussi de ces cyborgs qui sont beaucoup plus propres et beaucoup moins, on va dire, sales que dans les années 80?
C'était pas les cyborgs qui étaient sales, c'était l'environnement urbain, en gros.
Qui jouait beaucoup. Donc cette imagerie-là, du cyberpunk...
Ils faisaient que s'y intégrer, hein. Je suis pas sûre qu'ils étaient particulièrement crasseux. Ils avaient des rouages huileux. Enfin, j'ai pas tellement d'images qui me viennent de cyborgs rouillés, grinçants, si c'est ça que tu évoquais.
Oui, tout à fait.
Oui, parce qu'en fait... Sur ce qui naît dans le cyberpunk dans les années 80, je trouve que c'est plutôt très très propre, que ce soit Gibson, Sterling, Varley, sont des gens qui travaillent sur une... en fait, ce qui les intéresse, c'est l'interaction entre l'humanité et les créatures que l'humanité a créées. Tiens, vous la notez, celle-là? Je ne l'écris jamais, hein, mais pour la dire, je peux le faire 30 fois de suite, si vous voulez. Les créatures que l'humanité a générées, c'est beaucoup plus joli. Cette interaction qui est mise en valeur. Ce qui est intéressant aussi, tiens, on parle justement de cette période merveilleuse des premiers cyberpunkers, vont donner tout un système de réflexion qui va faire évoluer l'informatique à une vitesse hallucinante. Si Internet est né avant, le Web 2 naît de tout ce qui a été écrit à cette période-là. Parce que le système d'interactivité entre les utilisateurs du net, eh bien, il apparaît pour la première fois dans des bouquins, effectivement, comme ceux de Sterling, de Gibson, de Varley, et j'en oublie. Je vous avais prévenu, je termine les phrases n'importe comment.
Et sur le... on a un mouvement qui est issu de tout ça, c'est le transhumanisme, qui considère ces changements biologiques de l'être humain, enfin vers le mécanique, comme un perfectionnement de soi. Je vais poser la question à Étienne. Que penses-tu du mouvement transhumanisme?
Es-tu un transhumain toi-même?
Je porte des lunettes. Donc mon corps est augmenté pour pallier mes propres déficiences. Oui, ça fait partie d'un mouvement de frange qui agite des interrogations qui remuent dans l'extrême. Mais je pense que comme dans tous ces mouvements-là, petit à petit, il y a des thématiques qu'ils agitent, qui vont contaminer, et que je ne suis pas convaincu que les gens auront peur de se faire poser un doigt biomécanique dans 50 ans ou dans 100 ans.
Et arriver à un changement où il pourrait rester que notre cerveau dans une boîte, si on va très très loin dans cette idée-là, ou la mémoire qui est mise dans un disque dur, tout simplement. Est-ce qu'on reste vraiment humain dans ce cas-là?
Déjà, il faudrait y arriver, hein, parce que mettre la mémoire sur un disque dur, c'est un peu compliqué, je pense. On peut l'écrire, hein, mais on peut... De là à se dire que dans 50 ans on sera capable de synthétiser tout ce qui peut se passer dans...
C'est un peu un idéal transhumaniste, en tout cas, cette idée-là.
Bon, on va être obligé de citer Greg Egan, hein, question de l'identité.
On n'y échappe pas.
Il y a un auteur qui a magnifiquement travaillé sur cette thématique, jusqu'où on reste soi-même, quelle est la permanence, qu'est-ce qui stabilise une identité, est-on encore soi-même? Quand on prend des substances chimiques pour changer son humeur, se créer des faux souvenirs, sans parler d'IA, mais c'est la même question. Est-ce qu'on est toujours le même être humain quand on est une projection de soi-même dans un univers artificiel? Donc c'est ça, c'est le disque dur, hein, c'est la même idée. Et il a pris ça sous un tas d'angles et de plein de façons, et c'est complètement fascinant. Mais c'est évident qu'il n'y aura jamais de réponse définitive à cette question-là. On change d'état de conscience tous les jours. Le matin, quand on se réveille, on n'est pas exactement la même personne que celle qui s'est couchée la veille, et ça ne nous gêne pas. Donc, de toute façon, la conscience de soi-même est peut-être assez naïve pour croire que nous ne changeons pas trop, et pourtant, on sait bien que tous ici, il y a 20 ans, on n'était pas les mêmes personnes.
Et c'est aussi dans ce que développe Greg Egan, ce qui est intéressant, c'est que ce qui permet que la conscience de soi-même existe, c'est aussi la faculté de l'oubli de soi-même.
Oui. Et de l'oubli tout court.
Voilà. Et de l'oubli tout court.
C'est un très beau thème d'ailleurs, le fait de porter le poids d'une mémoire totale qui n'occulte rien. C'est
abordé pour la première fois par Thomas Moore.
Oui.
Bon, c'était juste pour.
Non, mais c'est peut-être quelque chose qu'il serait nécessaire d'intégrer dans une intelligence artificielle qui aurait une conscience d'elle-même, la faculté d'oubli qui semble nécessaire pour que l'identité reste stable et s'installe. Et après, il faudra se demander qu'est-ce qu'on a le droit d'effacer.
Ce qui est un peu compliqué là-dedans, c'est quand on se rend compte qu'effectivement, on est très content d'oublier. On souffre beaucoup, et puis quand c'est fini, deux jours après, on se souvient qu'on a souffert, on est incapable de ressentir la même souffrance. Donc cet oubli-là, il est parfaitement
il est
nécessaire.
Il est salutaire.
Par contre, il y a tout un tas de choses qu'on oublie, involontairement, sans que ça et que parfois, ça nous pose problème de les oublier. Donc les deux. Et c'est les deux qui nous construisent, et les deux sont pas, et tout le monde ne dispose pas des deux, de ces deux choses-là de la même manière. C'est aussi compliqué parce qu'on n'est pas égaux en rien, mais pas non plus devant cette faculté ni de mémoire ni d'oubli. Les gens qui sont incapables d'oublier.
C'est le truc des différentes échelles de mémoire. On a la mémoire à court terme, on a une mémoire un petit peu plus long terme, et puis on a cette espèce de mémoire qui se restructure sans arrêt parce que manifestement le cerveau est limité en stockage d'informations parce qu'il a à gérer d'autres choses que
forcément limité en stockage parce qu'apparemment on se souvient d'énormément de choses auxquelles on n'a plus accès et qui réapparaissent par hasard.
Oui, mais qui se modifient au fil du temps, c'est-à-dire que quand on avait 1,450 milliard gigas sur une information toute bête, le moment qu'on a passé ensemble il y a 20 ans, pas très loin de chez toi, si t'es dans une UMJ, j'en sais rien, tu vois, si on se le raconte tous les deux, on va tomber d'accord, mais on se souviendra pas du tout de la même chose. Parce que petit à petit, on resserre, on fait de la compression. Le cerveau fait de la compression au même titre qu'on a des logiciels de compression pour l'audio, pour le visuel, etc. Le cerveau, il fait de la compression. Et il essaye de garder des informations qui lui sont utiles.
Sans compter qu'on invente des souvenirs aussi.
Tu parles à des écrivains.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se souvient un petit peu quelque chose, puis à force de se le répéter, on l'imprime davantage et on l'épaissit. C'est-à-dire c'est des choses dont au bout d'un moment, on est persuadé que c'est un vrai souvenir. Alors qu'en fait, si on trouve des témoins, choses qu'on voit, que c'est quelque chose qu'on a plus ou moins fabriqué avec la répétition. Tout là.
Le principe de la scène de crime et les différents protocoles qu'on utilise pour interroger les témoins, ceux qui ont été développés, mis au point petit à petit, de façon à empêcher d'abord l'interrogateur d'influencer l'interrogé, et ensuite à faire qu'il y a plusieurs étapes d'interrogation, c'est tout de suite après, le lendemain, et puis 6 mois plus tard, parce que à ce moment-là, la mémoire a évolué. Il y a une partie qui est racontée tout de suite, qui est extrêmement influencée par les émotions, les ressentis propres. Il y a le moment où on commence à se décontracter 24 heures plus tard, où on est quand même légèrement sous le choc, mais où on a perdu l'essentiel des informations précises, par exemple, quelle couleur de cheveux, quelle couleur d'yeux, 24 heures après, ça n'a plus aucun sens, ça ne signifie plus rien. Et 6 mois plus tard, on a à la fois une mémoire qui est totalement faussée par la détente, le relais de détente, et puis qui va à un moment donné piocher dans des petites choses qui ont été emmagasinées et qui font qu'à ce moment-là, la couleur d'yeux revient. Est-ce la bonne ? Là, c'est intéressant. Il y a des gens qui, paf, c'est la bonne couleur dont ils vont se souvenir. La probabilité pour que ça fonctionne sur tout le monde est très très faible. Alors sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez remarqué, non, vous n'avez pas remarqué, vous n'êtes pas des robots parce que moi, oui. Encore une fois. Non mais je fais la même chose avec mes bouquins, hein. Ils ne terminent pas, hein. Vous terminez, vous prolongez les bouquins vous-même.
Et quand même sur cette question de la mémoire et de l'identité et de l'intelligence artificielle et des transhumanistes.
Ouais, transhumaniste, moi ça me, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai lu quelques, j'ai lu quelques nouvelles où je me rappelle d'un livre qui s'appelait Mal World, d'un auteur dont tu te rappelles pas le nom, mais qui s'appelle Sucharitkul, je sais pas quoi.
Santo Sucharitkul.
Excusez-moi.
Il est chef d'orchestre, il est plus auteur maintenant.
Et ça se passait dans une station orbitale où une sorte de grande série de magasins où il y avait tout. On pouvait tout acheter, on pouvait acheter son suicide, acheter je sais pas quoi. Et il y avait des gens qui passaient leur temps à se faire greffer des bras en plus, des têtes en plus, des machins. Et c'était super à la mode. Et finalement, j'ai l'impression qu'on commence à avoir cette idée qui vient, tiens, ah, si je pouvais me faire greffer un doigt. Alors il y a des... Si, l'idée, elle est là, elle commence à apparaître. Quoi. Pourquoi pas, quoi. Enfin, si ça marche, si ça fonctionne, si ça amuse des gens d'avoir une... une crête, une vraie. Mais bon, après, je sais pas exactement où on en est, qui ça branche exactement. C'est pas...
Justement, par rapport à ça et par rapport à comment la société évolue aujourd'hui,
C'est normal.
C'est la chaleur.
C'est contagieux.
Non, voilà, non, je pensais à la chaleur, juste se développe énormément. Enfin, c'est un peu.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le début.
Extrêmement clair.
Mais juste par rapport à la chirurgie esthétique, qui est peut-être une forme de transhumanisme, je ne sais pas, hein, mais apparemment ça me paraît être le début. On voit aussi, si vous regardez la télé, vous allez voir dans les séries américaines, pratiquement toutes les filles ont des lèvres qui commencent à partir dans tous les sens. Et ça rentre dans. Apparemment, là-bas, ça rentre dans la normalité. Donc pourquoi pas un jour se faire raboter les oreilles ou se les faire tailler en pointe. Puis ensuite, je ne sais pas si ça intéresse les gens de se faire rajouter un bras. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais.
Est-ce que ça a un intérêt parce que les personnages de science-fiction vont évoluer? Est-ce que ça a un intérêt pour la science-fiction à dévoluer? Puisque c'est que des nouvelles à un moment.
C'est pas très nouveau, je pense pas que
ça. Par rapport à l'avenir de la science-fiction.
Yeah.
Ce qu'on va apprendre, c'est des idées sur ce qu'on va construire. Est-ce que ça continue à avoir un intérêt par rapport à l'avenir de la société?
Il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. On voit bien que l'action humaine sur la planète est en train de modifier tout l'écosystème et les différents écosystèmes et le système planétologique global. Techniquement, on ne sait pas réparer ce qu'on a fait. On n'a qu'une solution, c'est la patience et essayer de ralentir un certain nombre de trucs. Mais on ne sait pas, par exemple, on décide qu'il faut consommer moins de carbone. On ne connaît absolument pas le résultat, parce que pour consommer moins de carbone, on va consommer d'autres choses et on va de toute façon transformer l'atmosphère. Donc, un, on ne sait pas. Deux, c'est très onéreux. Si on se lance dans la terraformation de la planète Terre, ça va coûter la peau du cul. Transformer l'homme pour qu'il s'adapte aux conditions qui évoluent, ça par contre, ça ne va pas coûter très cher. Et c'est très intéressant, parce que non content de pouvoir coloniser notre propre planète, ou plutôt de nous adapter à notre propre planète et ce qu'on en a fait, on va éventuellement pouvoir aussi s'adapter à des conditions planétologiques différentes sur les éventuels mondes que nous pourrions être amenés à croiser d'ici là. Et je crois que le transhumanisme, pour moi, sa fonction principale, c'est ça, c'est permettre à l'humanité de continuer à se vivre malgré ce qu'elle est capable de s'infliger. Et la deuxième chose, c'est il va bien falloir aller plus loin. Greffer des ouïes, on n'en est vraiment pas très loin. Je crois que c'est biologiquement la plus grosse transformation, parce que vivre sous l'eau, oui, mais là, on n'en est pas très loin. Alors, le pas très loin, c'est c'est peut-être dans 2 ans, là, pas, attendez, vous, normalement vous écroulez tous de rire quand je dis une connerie pareille, quoi. Non, c'est 50 ans, c'est 60 ans, 100 ans.
Un siècle.
Là par contre, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse vont s'accélérer les choses. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui on aurait tous une espèce de machin bizarre greffé à l'oreille avec lequel on passe son temps à communiquer? Arthur C. Clarke en 1963, pourquoi? Mais c'est à peu près le seul qui a vu. Les autres auteurs de SF l'ont pas anticipé.
L'Angelot, agent secret.
est-ce que ouais, la différence du truc portable, c'est pas du. Justement, il n'y a eu aucune modification sur le. Sur l'être humain, est-ce que le fait de greffer des ouïes, est-ce que théoriquement, peut-être qu'on le fait dans 100 ans, mais est-ce que ça n'entraîne pas toute une série de problématiques de faire vivre des gens sous l'eau qu'on n'est pas prêt justement de. Parce que théoriquement, pour écrire de la science-fiction, c'est parfait. Hein. On peut prendre une planète, transformer les hommes pour les adapter, mais concrètement, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce qu'un jour on arrivera à faire ça? Ou est-ce qu'on va tomber sur une série de problématiques qui vont s'enchaîner, qui vont être délirantes?
Si on ne meurt pas avant, il y a beaucoup de changements qu'on devrait pouvoir réussir à réaliser, oui, dans un avenir raisonnable. Ce n'est pas une hypothèse farfelue du tout. À mon avis, c'est beaucoup moins farfelu que d'imaginer qu'on va avoir des IA avec qui on va passer d'agréables soirées.
D'accord.
Simplement, il me semble pour l'instant que cette histoire de transhumanisme, c'est plutôt un phénomène de mode. C'est lié à une espèce d'esthétique ou comme
quand on voit, comme disait Yal, quelqu'un qui court sans jambes.
Oui, mais là, c'est là que je voulais dire, il y a une autre transformation du corps, c'est la réparation.
Oui.
Et là, effectivement, ça, c'est.
Ça, c'est une sacrée avancée.
Bon, et là, c'est autre chose, mais je pense que c'est l'histoire de transhumanisme, c'est faire un peu de. C'est du spectacle, je veux dire, c'est un peu de. À la limite, c'est de la mutilation. De la mutilation corporelle dans une visée esthétique. Alors que les réparations, on peut fabriquer des membres artificiels, etc., là, c'est effectivement autre chose.
Alors, ce que tu dis est très intéressant parce qu'en fait, tu émets une opinion. C'est que tu fais, grosso modo, tu essayes de faire de l'éthique. Et cette éthique sera-t-elle valable dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans comme, est-il vraiment éthique était-il vraiment éthique il y a 30 ans que tous les gamins puissent être localisés par leurs parents grâce à leur comment on dit en France, téléphone mobile. Je parle plus que le belge, moi, hein, je vous préviens. Je peux le parler avec la sienne, hein. Ah, c'est pas le bon, c'est pas grave. Donc, oui, ces questions-là sont intéressantes. Mais il n'empêche que, de toute façon, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, on va le mettre en place. Ça me fait toujours rire quand on crée des comités d'éthique sur des réflexions comme a-t-on le droit de transformer le génome, tu vois? C'est humain. Parce que sur l'aura, alors là, bon. A-t-on le droit? Est-ce que. Non. Si on arrive à la possibilité de le faire, on va le faire, que ce soit légal ou illégal. De toute façon, à un moment donné, on le fera. Pour l'instant, les premiers appareillages de remplacement de jambes qui permettent à quelqu'un qui n'a plus ses membres inférieurs de se déplacer comme un être humain, on ne l'a pas fait dans un esprit dont va aider les pauvres qui se sont fait couper les jambes dans une guerre. Tu vois? Non, on l'a fait dans un esprit de performance. Donc performances olympiques qui ont permis de relancer la recherche et d'obtenir des financements colossaux. Alors maintenant ça s'accélère, on est à quelque chose de. Mais l'idée au départ elle est très mauvaise. L'idée c'est dire ouais putain, on va faire de la téloche quoi.
L'idée elle est là depuis, enfin la prothèse elle existe. Alors c'est juste des prothèses améliorées, peut-être que maintenant ça lui permet effectivement que 400 mètres.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être à la fois pour. De remplacer les gens qui n'ont plus de jambes, qu'on en fasse des jambes artificielles en fait. En même temps, effectivement, je vois ça très bien. Puis en même temps, sur un autre plan, je serais presque contre même les boucles d'oreilles, contre le fait de percer les oreilles pour être des boucles. Dans ce sens-là, ça me paraît une mutilation corporelle sans raison.
On a chaque. Oui, mais alors là, on va rentrer dans un débat philosophique qui est extrêmement intéressant. Est-ce que et on va aller très loin, et je pense qu'on va atteindre le point Godwin très vite. Donc, on va l'éviter. Le mot transhumanisme n'est pas né d'une réflexion scientifique, il est né d'une réflexion philosophique qui part des travaux de Nietzsche au moment où il remettait en cause la métaphysique. Ce qui a donné des débats absolument passionnants dans le milieu de la SF, où tout le monde s'en mettait plein la gueule. Et là, je suis gentil quand je dis plein la gueule, parce qu'il y a des noms d'oiseaux que je ne connaissais pas encore. Mais ça change rien de toute façon. Pourquoi s'interroger sur le Je sais pas. Je suis trop auteur de SF, finalement, moi qui n'en écris plus depuis 25 siècles, je vous le rappelle.
Est-ce que, est-ce que cette histoire de prothèse, de pacemaker, machin, est-ce que ça rentre dans le cadre du transhumanisme? Moi, je pensais plutôt que c'était une modification du corps, une modification qu'on apporte au corps. Rajouter des prothèses, c'est pas une modification du corps.
Je pense que c'est
transhumanisme, c'est une augmentation, c'est une augmentation de l'être humain pour se dépasser, pour un nouveau perfection, enfin pour la perfection, pour ce qu'on imagine être la perfection. Chacun sa perfection, bien sûr, mais
est-ce que c'est un perfectionnement?
Mais c'est l'augmentation des capacités sensorielles, même physiques, enfin mémorielles. Enfin, c'est assez large, mais c'est vrai que la frontière entre la réparation et l'augmentation, elle est, ça dépend un peu des points de vue. Ouais, parce que mon cœur va fonctionner plus longtemps, donc je l'améliore d'une certaine manière.
C'est le propre de l'être humain de vouloir toujours se dépasser. Là maintenant, on en est à se demander, à se poser des questions sur quelque chose à la fois en matériel et en humain. Donc ça a toujours été pareil. Que ce soit comme une physique ou une philosophie, il faut aimer sortir de notre position pour aller plus loin, plus loin.
Sylvie,
Oui, alors sur le transhumanisme, moi depuis tout à l'heure, je suis perplexe en me demandant ce que c'est et ce que c'était pour moi avant qu'on commence à en parler ici. Mais je me rends compte que c'était pas du tout l'humain augmenté pour des finalités esthétiques ou autres, peu importe. Mais pour moi, c'était à rapprocher de la singularité de Werner Winch, c'est-à-dire l'idée que à un certain moment, les hommes, à force de se transformer, de s'associer avec des intelligences artificielles, de vivre en symbiose avec elles, peut-être, vont se transformer de manière fondamentale et qu'à partir d'un certain moment, on ne comprendra plus nous-mêmes, enfin, on ne peut plus comprendre comment fonctionnent les hommes au-delà d'un certain seuil. Enfin, j'ai peut-être fait un amalgame, mais pour moi, dans transhumanisme, il y avait la même racine que dans transgression, il y avait une idée...
C'est au-delà.
Oui, c'est ça. Donc, on a dépassé une certaine frontière quand on parle de transhumanisme. Et je ne crois pas qu'avec les prothèses dont on est en train de parler, on ait franchi la moindre frontière. Guère plus que... je suis sûre qu'il y a des milliers d'années, il y avait déjà plus ou moins des genres de dentistes qui devaient... réparer tant bien que mal les appareils masticatoires défaillants.
La jambe de bois, la béquille.
Oui, ça fait longtemps que ça existe.
Oui, non, mais
donc il n'y a pas de trans ici. Il faut qu'il y ait autre chose.
Moi, je suis une des filles. Enfin, tu...
oui, vas-y.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le transhumanisme. Quand on parle du transhumanisme, on parle effectivement, je pense que tu as raison, il y a une notion d'augmentation, c'est l'homme augmenté, mais ça fait énormément référence à cette partie de l'homme-là, celle qui est à l'intérieur. Parce que pour le reste, on est habitué depuis très longtemps à essayer de subvenir à nos besoins, ou à nos défaillances, ou d'une façon ou d'une autre. C'est à partir du moment où on touche au cerveau, où on touche aux capacités de l'esprit, aux capacités psychiques et intellectuelles, qu'on parle là de transhumanisme parce que on sent bien intuitivement qu'en modifiant les capacités ne serait-ce que de mémoire ou les capacités de perception ou les capacités de communication d'un être humain, on va modifier. On n'aura pas à la sortie un autre être humain. On va avoir un être différent. Pour la première fois, l'homme a la possibilité de se changer de lui-même. C'est-à-dire qu'il va
sortir
Darwin.
Déjà, en fumant des champignons hallucinogènes, je suis sûre qu'il y a très très longtemps, il y a des gens qui changeaient leur état mental. Et c'est pas non plus quelque chose.
Non, c'est vrai que la ayahuasca, l'alcool, enfin tout un tas de produits complètement...
mais ça aussi, c'est un vieux fantasme.
Interdit, non, pas tous. Non, l'alcool n'est pas interdit, je suis désolé. Alors là, je suis témoin, j'ai le droit d'en acheter n'importe où. Presque. Non, allez-y.
Je voulais revenir sur votre position par rapport au comité d'éthique et manipulation génétique sur l'humain. Je dis heureusement que vous êtes écrivain et pas scientifique, parce que vous seriez dangereux. Vu ce qu'ils sont capables de faire.
Je vais un peu.
D'accord, ça marche.
je vais je vais vous répondre. Je pense que toutes les âmes sensibles et les enfants de moins vont être obligés de sortir de la salle. Ça fait très très longtemps que tout ce qui est interdit, on le fait en recherche. Quand le moratoire passe en France pour interdire les recherches génétiques sur l'être humain, un de mes voisins à l'époque et trois de mes amis continuaient à travailler sur le clonage humain. Ils continuent toujours. Donc l'interdiction, quelle qu'elle soit, et c'est pour ça que je rigole quand je dis qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose, on va le faire, et c'est en ce sens-là que les comités d'éthique ne servent strictement à rien. Par ailleurs, je vais rentrer sur un deuxième aspect. Ils ne servent à rien parce que de toute façon, la loi n'est pas la même ici qu'ailleurs. Déjà, géographiquement, les lois anglaises, les lois américaines, les lois françaises là-dessus sont pas du tout les mêmes. Et je ne parle pas des lois à Panama, en Corée du Sud, en Corée du Nord, etc. Au-delà de ça, un comité d'éthique, c'est quoi? C'est une personne morale désignée par, grosso modo, l'État, c'est-à-dire les gens, les lobbies qui sont capables d'influencer l'État pour qu'ils prennent des décisions. Il y a, par exemple, en ce moment, vous êtes certainement au courant, qu'il y a une loi qui est passée récemment qui autorise le mariage homosexuel. Par contre, on n'a pas réglé d'autres problèmes. Le droit à la procréation médicale assistée pour les personnes de même sexe, les femmes particulièrement. Il y a un comité d'éthique. Là, il fait quoi? Il fait le boulot qu'on lui demande au moment où les lobbies lui disent « Attends, on a encore des valeurs morales. » Ces valeurs morales, on ne les aura plus dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je dis ça parce que je vis en Belgique. Ça revient strictement au même. C'est absolument la même chose. Se poser la question de savoir si, dans l'État de Californie, on a le droit de choisir la couleur des yeux de son enfant avant la naissance. C'est une manipulation génétique qui est autorisée en Californie. Elle est interdite partout ailleurs dans le monde. C'est pas vrai, il y a trois autres États américains qui l'ont autorisée. Mais la question éthique, c'est à partir du moment, la question que doit se poser toute personne, c'est à partir du moment où on change la couleur des yeux, est-ce qu'on va pas changer d'autre chose? Ben si, on va pas se priver, hein. Et c'est pas parce que ça va être interdit qu'on va pas le faire. Si un jour ça arrange, pour une raison ou une autre, un groupe économique, un lobby économique important, ou un lobby militaire, ou un État, on le fera de façon généralisée. C'est pas de ça qu'il faut avoir peur, c'est anticiper. L'éthique, elle est intéressante, c'est tant qu'on peut anticiper. Elle est nécessaire à l'échec de chaque individu, ce qui nécessite l'éducation, la culture et le civisme. Wow, désolé, je suis quelqu'un de très casse-pied là-dessus. Je...
Mais toi-même, tu fais référence à des notions éthiques. Quand tu parles de droit à la procréation, c'est une notion tout à fait...
Non, ça, c'est une notion... Une notion
discutable.
Pas du tout. Non, non, elle a été discutée depuis très longtemps.
Oui, mais elle est discutable.
Non,
elle est pas. C'est un droit à la procréation.
D'accord. Ok, c'est un autre débat. On en reparlera, parce qu'en plus, là, je vais monter en chevaux.
Je sais pas si tout le monde est en courant.
Je viens de consacrer 520 pages à ça.
Bon, on va malheureusement terminer, parce qu'il y a une autre table ronde qui va débuter derrière. en tout cas, déjà merci d'avoir été là. Merci à nos trois auteurs et notre essayiste Étienne Varillet d'avoir été présent. Si vous le souhaitez, et puis je le propose un peu de tout de goût à tout le monde, on peut descendre à la taverne et continuer à papoter tous ensemble ou en petit groupe comme on veut, ou à moins que. Selon liberté et envie de chacun, bien sûr, mais. Merci.